Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil, très bon lundi. Oui, c'est lundi, mais on est ensemble jusqu'à 9h. On vous accompagne. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin, lundi 26 janvier 2026. Une invitée exceptionnelle, notez-le ce matin, Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, le professeur assassiné en octobre 2020 par un islamiste. Elle a choisi RMC pour prendre la parole à quelques heures du procès en appel des complices du meurtre de son frère. Comment se prépare-t-elle à cette nouvelle épreuve? Qu'est-ce qui a changé en France depuis l'assassinat de son frère? Et puis cette question, faut-il faire entrer Samuel Paty au Panthéon? Mickaëlle Paty donc sera dans ce studio dans moins d'une heure à 7h40. Dans 10 minutes, cette question, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une proposition qui sera débattue dès aujourd'hui à l'Assemblée. L'ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire sera mon invitée à 7h10. Ce n'est pas en interdisant les réseaux sociaux que l'on stoppera le harcèlement. Voilà son parti pris à 7h10. Je vous attends aussi, vous, que vous soyez d'ailleurs professeur ou parent. Appelez-nous. Est-ce que vous constatez les dégâts des réseaux sociaux autour de vous et chez les plus jeunes? Le 32-16, bien sûr. Et 06 12 424 424 pour le WhatsApp de l'émission. L'invité du face-à-face ce matin, ce sera Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il sera candidat à la primaire de la gauche qui a été lancée par les socialistes et les écolos ce week-end? Raphaël Glucksmann, donc mon invité à 8h30, dans un instant le journal de 7h. RMC, il est 7h, très bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La soumission chimique, toile de fond d'un procès ce lundi, celui de l'ancien sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué à des fins sexuelles la députée Sandrine Josso. Les anciens présidents américains Bill Clinton et Barack Obama s'en prennent à Donald Trump après la mort d'un deuxième manifestant samedi à Minneapolis. Et trois nouveaux lots de lait infantiles rappelés. Cette fois, c'est la marque française Baby Bio qui est concernée.
Une députée face à son bourreau ce lundi, l'ancien sénateur Joël Guerriau.
Jugé aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir drogué Sandrine Josso afin de la violer. Une affaire de soumission chimique qui remonte à novembre 2023. Rachel Sadodine.
Tout juste réélu au Sénat, Joël Guerriau invite sa collègue à fêter sa victoire lors d'un dîner chez lui à Paris. À 20h, Sandrine Josso arrive et découvre étonnée qu'elle est la seule convive. Joël Guerriau lui sert alors un verre.
Le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude.
La députée comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Elle livre sa version des faits une semaine plus tard sur BFM TV.
Il mettait la lumière très fort. Il abaissait tout à coup. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Ce sont les médecins après qui m'ont expliqué que on active en fait l'efficacité de la drogue.
Sandrine Josso ressent des symptômes qui l'inquiètent. Elle a la nausée. Son rythme cardiaque s'accélère. C'est alors, dit-elle, qu'elle aperçoit Joël Guerriau ranger un petit sachet de poudre blanche dans un tiroir de la cuisine.
Je me suis dit, mais Sandrine, il t'a drogué. Sors, sauve-toi.
Avec les forces qui lui restent, elle quitte l'appartement et réussit à prendre un taxi. Le soir même, les analyses toxicologiques de Sandrine Josso révèlent une très forte intoxication à l'ecstasy, drogue retrouvé le lendemain chez Joël Guerriau. Interpellé, le sénateur affirme se l'être procuré pour son usage personnel et l'avoir administré par inadvertance à sa collègue.
Autre procès en appel l'assassinat terroriste de Samuel Paty. 5 ans après les faits, 4 accusés sont rejugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, condamnés en première instance à des peines de 13 à 16 ans de réclusion criminelle. Mickaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné, sera votre invitée, Apolline, à 7h40 ce matin sur RMC.
7h02 sur RMC, on en vient à cette histoire sordide à Nice.
Le viol d'une nonagénaire, ça s'est passé la semaine dernière dans les quartiers ouest de la ville, agressé par un homme, un Tunisien sous OQTF, interpellé depuis Romaoui, il a été mis en examen et écroué.
Oui, les faits se déroulent dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, il est environ 4h du matin, lorsque le suspect s'infiltre de force dans l'appartement de cette femme, âgée de 90 ans, avant de la violer à plusieurs reprises, détaille le procureur. La victime prévient les secours, elle présente des blessures aux mains, aux bras, aux jambes. Rapidement, les forces de l'ordre parviennent à appréhender l'auteur des faits. Un homme d'une trentaine d'années, né en Tunisie, testé positif à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne. Il reconnaît s'être introduit dans l'appartement, mais nie les faits de viol. Sous le coup d'une OQTF, le suspect était assigné à résidence depuis 2 semaines en Saône-et-Loire. Il squattait un appartement voisin à celui de la victime avec d'autres étrangers en situation irrégulière.
À Nice, toujours le principal suspect dans la mort d'une mère de famille abattue la semaine dernière en pleine rue au volant de sa voiture sous les yeux de son bébé a été mis en examen et incarcéré. S'il refuse toujours de parler, la thèse intrafamiliale reste privilégiée par les enquêteurs qui cherchent à comprendre les circonstances de ce drame. Ils appellent les Américains à se lever, à s'exprimer. Les anciens présidents démocrates Barack Obama, Bill Clinton réagissent à la mort d'un deuxième manifestant à Minneapolis, tué samedi. Alex Pretty, infirmier de 37 ans, abattu de plusieurs balles par la police fédérale. Un millier de personnes se sont réunies dans cette ville du nord des États-Unis pour dénoncer ce crime, mais aussi la répression, Célestin Bougeard, de la police de l'immigration et de ses pouvoirs étendus.
Sur le bord de la route, là où Alex Pretty a été abattu par des agents fédéraux, des centaines de personnes se sont réunies. Autour des bougies et des fleurs, les habitants comme Heidi ne cachent pas leur colère contre la police de l'immigration.
Ils ne nous aident pas. Ils apportent le chaos et ils doivent partir.
Les policiers fédéraux ont fait 2 morts ici en moins de 3 semaines. Une forme de psychose s'est donc installée dans la ville. La peur de se faire contrôler, de se retrouver au milieu d'affrontements avec ses agents, c'est ce que raconte Jérôme, un Français qui vit à Minneapolis.
De toute évidence, n'importe qui peut se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc c'est vrai que j'ai diminué mes déplacements à tout ce qui est absolument nécessaire.
Chez Jérôme monte maintenant la crainte d'une escalade de la violence.
J'ai toujours peur que 1 ou 2, 3 allumés fassent le cap et qui donnent prétexte à une répression plus grande. Mais ceci dit, pour l'instant, je ne vois qu'une amplification de ce mouvement pacifiste.
Dans un discours ce week-end, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a interpellé en personne Donald Trump, lui demandant de retirer tous les policiers de l'immigration de la ville. Le président a lui accusé l'édile d'encourager une insurrection.
À Paris, ils étaient 2500 hier pour réclamer justice 2 semaines après la mort d'El Hassen Diarra, mauritanien décédé en garde à vue dans un commissariat du 20e arrondissement après une violente interpellation dans cette affaire. Une information judiciaire a été ouverte. Un chiffre effarant ce matin, près d'une agence immobilière sur deux accepte de discriminer un locataire au motif racial. À la demande d'un propriétaire, résultat d'une campagne de tests menée dans 198 agences par SOS Racisme. Le chemin est encore long, répond la ministre déléguée aux discriminations, Aurore Berger, qui annonce une formation obligatoire pour tous les agents immobiliers à ce sujet. On en reparle dans le journal de 7h30.
Nouveau rappel de lait infantile.
Après Lactalis, Nestlé et Danone sont concernés cette fois des laits de la marque Baby Bio Optima du groupe Vita Germine, en cause la présence potentielle d'une toxine produite par certaines bactéries, la céréulide, objet de nouvelles recommandations. Grégoire Morelli.
Oui, le groupe Vita Germine, propriétaire de la marque Baby Bio, dit avoir retiré 3 lots de la vente. Il s'agit de lait en poudre appelé Optima 1, prévu pour les nourrissons de 0 à 6 mois et commercialisé en France entre le 11 septembre et le 23 janvier. L'un des lots concerne des pots de 400 grammes, les deux autres de 800 grammes. Sur son site, la marque appelle donc à ne plus consommer les produits concernés et à bien sûr les jeter. La cause de ce rappel, toujours une possible contamination à la céréulide, une substance qui peut provoquer des vomissements dans les heures qui suivent son ingestion. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, elle peut également entraîner des complications graves, parfois mortelles. Si vous avez un doute sur les lots concernés, vous pouvez consulter le site rappel.conso.gouv.fr.
Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, les députés sont appelés à se prononcer sur le sujet. Aujourd'hui, texte soutenu par le gouvernement. Emmanuel Macron qui annonce une procédure accélérée avec une mise en application espérée à la prochaine rentrée.
7h06 sur RMC, rien ne va plus à Lille, encore battu hier soir.
Écrasé à domicile par Strasbourg 4-1 en clôture de la 19e journée de Ligue 1. C'est la 5e défaite de rang, toute compétition confondue pour les nordistes en pleine crise, Jean Baumel.
Les sifflets ont retenti fortement dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Cette 3e et lourde défaite de suite à domicile passe mal chez les supporters lillois.
C'est un enfer, 5 matchs en enfer. On pensait qu'on allait voir enfin des guerriers sur le terrain, là il n'y a rien. On aimerait bien juste qu'au moins ça joue un peu plus parce que là c'est honteux ce qui s'est passé.
Normalement il faut secouer les joueurs, il faut mouiller le maillot hein, comme on dit, il faut mouiller le maillot.
Les voir comme ça prendre 4-1 à domicile, c'est dur.
À la fin du match, le capitaine Olivier Giroud était abattu mais pas résigné.
Beaucoup de déception évidemment, beaucoup de silence dans les vestiaires. Il y a beaucoup de fatigue voilà, physique, mentale et dans ces moments-là il faut serrer les coudes et c'est ensemble qu'on va se relever.
Le meilleur buteur des Bleus a soutenu son entraîneur, Bruno Genesio, qui a confirmé sa présence sur le banc lillois jeudi soir en Ligue Europa.
Je serai encore là jeudi. En notre métier, il faut toujours être vigilant. Mais je me sens concerné. Je suis avec les joueurs. Je suis au milieu d'eux et non pas au-dessus. Et c'est ensemble qu'on trouvera des solutions.
La fin de semaine s'annonce délicate pour le LOSC avec Fribourg et un déplacement difficile à Lyon dimanche à 15h.
Et Lyon qui cartonne et s'impose 5-2 face à Metz grâce à un triplé du jeune Brésilien Hendrick. À noter les victoires de Nice et Toulouse, match nul et vierge entre le Paris FC et Angers. Et puis Julia Simon signe sa première victoire de la saison en Coupe du Monde, c'est du biathlon. Vainqueur de la Mastart de Nové Mesto devant sa compatriote Océane Michelon de bon augure à une dizaine de jours des Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera à vivre à partir du 6 février sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que ça peut permettre d'empêcher le harcèlement à l'école? Bonjour Anne-Lise Debat. Vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Pour vous, il faut surtout davantage faire de prévention dans les écoles. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez au 32-16, cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Je vous attends bien sûr au 32-16, 7h09 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Interdire le portable au lycée, empêcher les moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, imposer un couvre-feu pour les 15-18 ans. Les députés débattent aujourd'hui de toutes ces propositions. Merci d'être en direct avec nous, Anne-Lise Debat. Vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez vous-même d'ailleurs été victime de harcèlement pendant votre scolarité. Pour vous, interdire les réseaux sociaux, c'est se tromper de problème?
Oui. La première chose, je pense, avant même de vouloir interdire un outil qui est fondamental à la vie des jeunes, c'est bien évidemment la prévention, l'éducation et l'accompagnement, ce qui manque cruellement dans le système éducatif français.
Donc en fait, avant d'interdire les réseaux ou de s'attaquer à des horaires de portable, il faudrait faire plus de prévention et c'est toujours pas le cas?
Tout à fait. L'un des grands problèmes en France, c'est qu'il y a une loi qui existe en France sur le programme phare qui mène donc des actions de prévention dans la France, dans les écoles, collèges et lycées, notamment donc sur le harcèlement scolaire, sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment au travers de l'association e-enfance qui gère également le 3018, le numéro d'aide en cas de harcèlement scolaire. Et pourtant, dans les faits, sur le terrain, il y a encore beaucoup trop d'établissements scolaires dans lesquels il n'y a aucune prévention. Donc beaucoup de jeunes ne savent pas encore utiliser les réseaux sociaux et ils le font sur le tas.
J'entends bien, mais j'ai envie de dire, Anne-Lise Debat, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un peu trop puriste, c'est-à-dire en vous disant il faut vraiment se concentrer sur le harcèlement lui-même, et vous avez bien raison, mille fois raison évidemment, mais est-ce qu'on peut pas faire les deux, c'est-à-dire à la fois faire de la prévention en effet et ne pas bien se passer de ça, mais dans le même temps et en attendant en effet que les jeunes aient les outils comme vous dites pour vraiment décrypter les réseaux sociaux et savoir les utiliser, on les interdit.
Non, parce que là, on met une catégorie de la population sur le côté. Déjà, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Si la loi elle était déjà effective, c'est-à-dire si on faisait en sorte de protéger les jeunes qui ont moins de 13 ans actuellement pour que eux ne créent pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on les protégeait au niveau des algorithmes, des modérateurs qui sont bien évidemment manquants sur les réseaux sociaux et notamment en France d'une manière générale, déjà avec une loi qui était vraiment applicable sur le terrain, on pourrait faire en sorte que les violences et le contenu qui peut être violent sur les réseaux sociaux aient moins d'impact sur notre jeunesse. Mais là, on a forcément besoin de prévention, étant donné que les lois applicables ne s'appliquent même pas.
Je suis bien d'accord, on a besoin de prévention. Après, c'est vrai que c'est le point de vue aussi de la maman, moi, qui parle, mais j'ai été très frappée, moi, à un moment, je veux dire, j'ai des ados comme tout le monde. Évidemment que si vous leur dites, je t'empêche d'avoir ton téléphone portable, mais à toi tout seul, et pas aux autres, et pas à tes copains, ça ne marche pas. En revanche, quand ils se sont retrouvés dans des situations où les autres non plus n'avaient pas de portable, alors, finalement, eux-mêmes s'en sentaient parfois soulagés. J'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est ce que demandent un certain nombre de parents. C'est votre cas, Nicolas? Bonjour Nicolas. Je voudrais vous accueillir au 32-16 et Anne-Lise Debat aussi reste avec nous. Nicolas, vous êtes parent et je crois que vous avez un enfant qui a 15 ans. Vous avez tenté justement de mettre à distance les téléphones portables, le réseau social. C'est difficile quand on est parent tout seul. Hein.
Ouais, c'est difficile. C'est vrai que nous, notre fils, quand il est rentré au collège, il a eu un téléphone parce que Pronote, parce que le bus, parce que voilà.
Ouais.
Et on s'était engagé avec ma femme à ne pas lui laisser accès aux réseaux sociaux. On a tenu, mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que c'était certainement le seul de sa classe à ne pas avoir accès aux réseaux sociaux. Donc forcément, on est arrivé à une situation où il était totalement isolé de ses camarades, isolement social. On était presque arrivé à du harcèlement scolaire parce que c'était un enfant qui était presque pas normal du coup.
Ouais.
Donc,
vous avez fini par craquer.
On a fini. Ouais, alors on essaie de maîtriser quand même avec toutes les applications qui existent aujourd'hui pour voir ce qui se passe sur les téléphones de l'adolescent, mais on a quand même fini par malheureusement, je dis bien, on a fini par craquer. Ouais.
Alors Nicolas, si toute la classe, c'est-à-dire si tous les jeunes jusqu'à 15 ans avaient eu l'interdiction d'avoir ces réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que votre fils, pour le coup, vous auriez pu tenir? Est-ce que vous appelez cette interdiction globale comme une sorte de soulagement ou d'aide pour les parents?
Moi, j'y suis largement favorable parce qu'effectivement, quand il y a que deux ou trois enfants de la classe qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, moi je vous dis, c'est des enfants qui rentrent pas dans les cases. Oui, exactement, ça les stigmatise totalement. Si on a l'ensemble de la classe qui n'a pas accès à ces réseaux, effectivement, derrière, il y aura plus. Je pense qu'on arrivera à éliminer une partie du problème. Voilà.
Effectivement, et la question, c'est de poser un interdit, en quelque sorte. Annelise, sur cette question-là en particulier, c'est-à-dire aussi pour aider les parents à pouvoir lutter, je trouve, honnêtement, moi, c'est mon expérience, je veux dire, à un moment, mon fils s'est retrouvé dans une colonie de vacances où personne n'avait de portable, il le redoutait évidemment, mais en sortant, finalement, il s'est dit, je me suis rendu compte que quand personne n'en a, c'est hyper sympa et il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas, comme en témoigne Nicolas. Est-ce qu'à un moment, ça ne permettrait pas quand même à Nice de repousser un tout petit peu quand même cette apparition du réseau social, de WhatsApp, de Snapchat, qui quand même, à un moment, sont des vecteurs de stigmatisation de l'autre, non?
Le problème, il est humain avant même d'être technologique. Donc,
la technologie n'est que l'outil pour vous.
Exactement. Ce qui est vraiment important, ça va être vraiment d'écouter les enfants, de les éduquer, de leur apprendre ce que c'est que le respect de soi, comment aider les autres, comment partager avec les autres, comment être dans l'empathie, dans la compassion. Le problème, c'est pas de se dire que les réseaux sociaux vont potentiellement avoir un impact négatif avant même de penser éducation,
Vous-même, Annelise, lorsque vous avez témoigné, et vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelle « La peur au ventre », vous dites avoir été victime de harcèlement, j'allais dire dans la vraie vie, mais également lorsque vous rentriez chez vous, vous aviez également cette angoisse que le harcèlement se poursuive sur les réseaux, un cyberharcèlement.
Oui, bien sûr. Moi, j'avais
c'est une caisse de résonance.
Oui, parce que dans beaucoup de cas de harcèlement, malheureusement, les victimes de harcèlement qui sont déjà harcelées, donc au sein de la vraie vie, à l'école, à l'extérieur, peuvent à la suite être victimes de harcèlement, donc sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est un facteur aggravant. Le harcèlement était déjà là.
Bien sûr.
Et d'où l'important, justement, d'éduquer à la bonne utilisation des réseaux sociaux.
Éduquer et faire de la prévention, vous plaidez pour cela. Merci beaucoup Annelise Debat d'avoir été avec nous en direct et merci aussi à Nicolas pour son témoignage. Annelise Debat, vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire et je rappelle le titre de votre livre, La peur au ventre, c'est chez City Edition. Il est 7h19 et on va remonter le temps comme chaque matin, sauf que pour une fois, ça n'est pas Arthur Chevalier, c'est vous Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historien d'RMC ce matin, vous êtes historien d'ailleurs tout court. Thierry, elle devait être exceptionnelle, la contribution sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle a finalement été reconduite pour 2026. Ça ne vous surprend pas ?
Non, parce que c'est une habitude française. Souvenez-vous, la vignette instaurée provisoirement en 1956, elle a duré 50 ans. La France est le pays champion du monde des impôts provisoires. Qui dure,
vous nous en faites l'histoire dans un instant. Il est 7h20, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité comme chaque matin, et c'est avec Thierry Lenz. Thierry, notre historien ce matin. Dans le budget 2026, le gouvernement a décidé de faire payer les grandes entreprises avec une surtaxe, environ 8 milliards sur leurs bénéfices. Et pourtant, le gouvernement était formel l'an dernier. Ils avaient promis que cette taxe était exceptionnel.
Oui, c'est en tout cas ce qu'avait promis la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, en juin dernier, je la cite, la surtaxe d'impôt sur les sociétés n'existera plus en 2026. Nous sommes en 2026 et la surtaxe survit. Elle survit à cette promesse qui avait pourtant été faite la main sur le cœur.
Une promesse fiscale non tenue, ça c'est pas exceptionnel.
Ah, pas du tout, c'est même une vieille, une très vieille habitude de l'État en France. On peut même la faire remonter à Philippe le Bel qui régna de...
Bon bah de 1285 à 1314 comme chacun sait.
Exactement Apolline, et on peut dire qu'il est le créateur du fisc, administration promise à un grand avenir. Car des recettes, le royaume en avait besoin à un moment où le roi voulait renforcer son pouvoir sur les seigneurs. Philippe le Bel fit feu de tout bois jusqu'à créer un impôt exceptionnel sur l'Église, le plus important propriétaire de France. Il devait durer 2 ans et en dura finalement 17.
Philippe le Bel fut donc le premier mais pas le dernier.
Ah, loin de là. Autre spécialiste des impôts exceptionnels, voici le roi soleil, Louis XIV. En 1710, il a besoin d'argent pour financer la guerre dite de succession d'Espagne, qui dure depuis déjà 9 ans. Il décide de créer un impôt sur tous les revenus fonciers. Tout le monde devra payer et le taux est faramineux pour l'époque, 10%. Mais le roi rassure les contribuables, l'impôt sera exceptionnel et ne vaudra que pour 1 an, puis pour 2, puis pour 3, et on ira jusqu'à 7 ans, jusqu'en 1717.
Si je comprends bien, il ne faut pas croire aux promesses d'impôts exceptionnels ou provisoires.
C'est le moins qu'on puisse dire, l'histoire en est pleine, jusqu'à des époques récentes. Tenez, en 1956, Guy Mollet, alors chef du gouvernement, crée la vignette automobile, payable chaque année sur chaque bagnole. Sur le papier, elle sera entièrement consacrée à offrir un revenu minimum aux plus de 65 ans. On l'a parfois appelée la vignette des vieux. On ne peut pas être contre, d'autant qu'on a promis qu'elle ne durerait pas. Et puis patatras, en 1959, non seulement on la prolonge, mais on décide que les recettes de la vignette seront versées au budget général de l'État, en clair, noyé dans la masse. Adieu le revenu des vieux, mais on continuera à payer. La vignette sera finalement supprimée en 2006.
C'est ce qui va se passer avec la contribution sur les bénéfices ?
C'est probable, vu la situation actuelle. Et pourquoi ces quelques milliards sur 1 an, puis sur 2, ne feraient-ils pas des petits dans les années suivantes ? Au moins, sur le plan des promesses fiscales non tenues, Madame de Montchalin représente, sans trop le savoir, la continuité de l'État. Elle est, si j'ose dire, l'arrière-petite-fille du trésorier de Philippe le Bel, du contrôleur des finances de Louis XIV et de la longue suite des ministres des comptes publics de nos républiques.
Merci Thierry Lenz, donc l'historien d'Apolline Matin ce matin, qui remontait donc la fabuleuse histoire des impôts exceptionnels en France. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour. Salut
Arnaud.
Titi, ça mousse.
Ça va.
Ça va bien.
Titi, il est
un nouveau.
Dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC, BFM TV, je reçois le député européen Place Publique, Raphaël Glucksmann.
Eh oui, 4 consonnes et 3%, c'est le futur de Raphaël. C'est méchant, c'est méchant. En vrai, il est à 10-12. Mais le destin des socialistes à la présidentielle, en ce moment, il est taquin, quoi. Il y a un bon baromètre pour savoir si un invité sera oui ou non futur président de la République. C'est le nombre de chefs de notre radio qui l'attendent dans les couloirs pour les saluer. Bon, là, on est encore un peu loin de l'Élysée, mais on s'approche d'un sous-secrétariat d'État au numérique, quand même. Attention ! Ce week-end, les leaders de la gauche se sont réunis à Tours pour annoncer qu'ils organiseraient une primaire commune pour la présidentielle afin de désigner celui qui aura l'honneur de prendre une tôle à 2% au premier tour. Et vous avez vu où ils se sont réunis ? À la salle Jacques Villeray.
Oui.
C'est un beau symbole, je trouve, pour démarrer. Un dîner à la SAC Jacques Villeray. Ça a dû se décider comme ça.
Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain?
Mercredi prochain, rien.
Eh ben, c'est super! On va aller à Tours, écouter votre programme, et ensuite, on écoutera celui de Lucie Castet. On va rigoler! Alors, la gauche, c'était la gauche unie, qui se réunissait, mais unie sans les insoumis, sans Raphaël Glucksmann, sans les communistes. Au PS, ils ont dit oui, mais on verra. En fait, c'est l'union, mais chacun propose une unité différente aux Français. En fait, c'est plus démocratique comme ça. L'unité où on est tous d'accord, c'est du fascisme. Alors, une primaire à gauche, mais sans les deux candidats les mieux placés dans les sondages. C'est un peu comme si j'invitais, je sais pas moi, Mathieu. Tiens, allez, samedi, soirée raclette. Par contre, il y aura ni fromage, ni charcuterie.
Voilà.
Mais
il y a les patates.
Mais il y aura Raquel Garrido et Olivier Faure. C'est une belle soirée. François Hollande n'était pas convié. Et alors, Bernard Cazeneuve, il y était ou pas? Parce que alors moi je me suis posé la question.
Moi tout le week-end je me suis demandé.
Mais oui, moi ça m'a passionné. Non mais à un moment on parlait de lui, donc je me suis demandé est-ce qu'il était au dîner de Concorde de la gauche. Alors j'ai tapé Cazeneuve dans Google Actu, ça m'a sorti 13 articles, tous intitulés Thierry Cazeneuve, figure du cyclisme, est décédé.
Oh non, voilà.
Condoléances à la famille Cazeneuve, puisqu'ils ont perdu et Thierry et Bernard,
ah oui,
qui a l'air d'être décédé aussi. Mais alors depuis plus longtemps, parce que sur lui, il n'y a rien nulle part.
Ah,
son mouvement s'appelle la Convention, et en fait, c'était la Convention obsèque.
Oh non, bah,
pourtant, à une époque, c'était le chouchou de la gauche, quoi. Il l'appelait mon chéri et tout. Parce qu'il est comme le chocolat, c'est celui qu'on prend quand il reste plus que ça.
Oh non.
Bref, la gauche, elle est comme moi ce matin, elle est malade, sauf que moi en 2027, ça ira mieux. Mais on va analyser tout ça avec Raphaël Glucksmann, ce sera à 8h30, tout à l'heure.
C'était Arnaud Demange, on vous retrouve à 8h20, il est 7h27 sur RMC, ne manquez pas, à 7h40, une invitée exceptionnelle, la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, a choisi RMC pour s'exprimer au matin du procès en appel. Elle sera avec nous donc dans 10 minutes, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quand la couleur de peau ou l'origine s'ajoute à la longue liste de critères pour louer un appartement, une pratique illégale est pourtant appliquée dans une agence immobilière sur deux, selon SOS Racisme. Deux d'entre eux sont accusés d'avoir mis une cible dans le dos de Samuel Paty, les deux autres d'être des complices du djihadiste qui l'a tué. Le procès en appel de l'assassinat terroriste de l'enseignant s'ouvre ce matin. Et puis les scandales à répétition ont-ils fini par avoir un impact sur les ventes de l'ultra fast fashion. Elles ont en tout cas baissé de 2% l'an dernier.
Tous les locataires ne sont pas logés à la même enseigne.
À louer, très bel appartement, plein centre, avec terrasse. Mais pour ça, il vous faudra un CDI, trois fois le loyer et la bonne couleur de peau. C'est ce que réclament certains propriétaires. Et dans près d'une agence sur deux, ils trouvent une oreille, disons, clémente, voire compréhensive. Un constat accablant dressé par l'association SOS Racisme, qui a tout simplement fait le test, Romain Hougue, auprès de quasiment 200 structures.
Oui, ce sont des membres de l'association qui se sont fait passer pour des propriétaires désireux de mettre en location leurs biens auprès d'agences immobilières avec un critère bien précis, sélectionner uniquement des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage ou encore le bruit et l'odeur, arguent les faux propriétaires. La plupart du temps, l'agent à l'autre bout du fil rappelle le cadre légal qui interdit toute discrimination avant d'expliquer être prêt à passer outre, comme écouté dans cet enregistrement.
On va parler clairement. C'était quoi les locataires? C'est quoi? Ils sont d'origine
africaine, quoi. Ouais.
Ouais, d'accord. Ben je comprends. Maintenant, c'est vrai que vous avez vu quand je vous ai parlé de discrimination, à un moment je vous ai parlé de race, de couleur de peau, de religion. Mais bien évidemment, on sait très bien qu'on n'a pas non plus les mêmes façons de faire. On fera effectivement en sorte de filtrer ça.
Sur 198 agences, 48 ont accepté de faire elles-mêmes un tri des candidats en fonction de la couleur de peau. 48 autres ont accepté de laisser pour le propriétaire faire le tri lui-même. Dans les deux cas, c'était évidemment illégal. En réaction, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a annoncé la mise en place d'une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers détenteurs ou non d'une carte professionnelle.
Les précisions de Romain Hougue pour RMC. Encore un millier de personnes rassemblées hier à Minneapolis aux États-Unis pour protester contre les méthodes de leur police de l'immigration, responsable du décès d'un deuxième militant ce week-end. Et ce matin, deux anciens présidents américains sortent du silence, Bill Clinton et Barack Obama, qui appellent tous deux au sursaut. Il est 7h33 et ce sont ceux qui ont été le plus lourdement condamnés en première instance. Ils comparaissent à nouveau aujourd'hui au procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste. Pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet plus de 5 ans après cet attentat qui a marqué tout le pays. 4 des 8 condamnés reviennent donc à la barre aujourd'hui, Constance Bostoen.
Oui, il y a d'abord les deux complices présumés du terroriste tchétchène abattu par la police. Ces deux hommes avaient 18 et 19 ans à l'époque. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé l'assassin à trouver une arme et à se rendre sur le lieu de l'attaque. En connaissant ses intentions, ils ont pris 16 ans de réclusion en première instance. Troisième accusé, le père de la collégienne menteuse, celle qui avait accusé Samuel Paty d'avoir discriminé des élèves musulmans lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un cours auquel elle n'a jamais assisté. Son père avait relayé ses accusations sur les réseaux sociaux, des propos repris et amplifiés par le quatrième accusé, un prédicateur islamiste, créant ainsi une polémique qui a inspiré l'attentat. Au premier procès, 13 ans de réclusion pour le père de la collégienne, 15 ans pour le prédicateur. La famille de Samuel Paty n'en espère pas moins lors de cet appel.
Verdict attendu le 27 février prochain. Il est 7h34 et la mode éphémère n'a jamais aussi bien porté son nom. Il se pourrait même qu'elle fasse les frais des différentes polémiques qui ont marqué l'année dernière, année durant laquelle les ventes de l'ultra fast fashion ont baissé de 2%. C'est ce que nous apprend ce matin l'Observatoire de la consommation du groupe BPCE. Et vous l'avez constaté, Marion Degas, on sent une forme de lassitude chez les consommateurs.
Lors de sa première commande sur Shein, Inès était ravie.
J'avais trouvé plein de choses qui étaient pas mal et qui étaient du coup dans mon budget.
Mais lorsque les premières polémiques sont apparues, elle a commencé à se renseigner.
Il y a eu plein d'infos sur les conditions de travail, de pourquoi les prix justement sont aussi peu élevés. Du coup, c'était une commande et puis après plus jamais.
Selon BPCE, c'est surtout au deuxième semestre de 2025 que les ventes de l'ultra fast fashion ont diminué. Louise a renoncé à ce type d'achat.
De un, c'est de la surconsommation et de deux, bah, éthiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus correct. Ça saute aux yeux, enfin pas de mauvaise foi et de dire qu'il se passe rien, une prise de conscience qui est inévitable.
Une prise de conscience qui pousse beaucoup à se tourner vers la seconde main, c'est le cas de Laurine.
Il y a déjà énormément de vêtements qui ont été créés par le passé et qui peuvent toujours être utilisés, alors que maintenant on va avoir plein de choses très polluantes avec beaucoup de polyester.
Ce recul s'explique par une prise de conscience, mais aussi par le bouche à oreille, explique le spécialiste conso Valère Coréard.
Il y a un effet quand même de viralité qui va effectivement amener à ce qu'il y ait une perte de confiance en fait. Et puis quand vous rajoutez les polémiques, on peut avoir un marché qui se crispe.
Le tout dans un contexte plus restrictif avec la mise en place prochaine d'une taxe de 3 euros sur les petits colis.
7h35, le PSG en tête de la Ligue 1 ce matin et en passe de recruter le très prometteur Dro Fernandez, jeune milieu de terrain du FC Barcelone. Il passera sa visite médicale dans la journée et doit signer à seulement 18 ans un contrat avec Paris jusqu'en 2030, Fabrice Hawkins.
La colère de l'entraîneur du FC Barcelone quand il a appris le départ de Dro Fernandez permet d'évaluer les espoirs qui étaient placés en lui au Barça. À seulement 18 ans et avec 5 matchs en professionnel chez les Catalans, Pedro, dit Dro Fernandez, débarque à Paris. Identifié depuis son plus jeune âge comme un talent rare, l'Espagnol qui a des origines philippines du côté de sa mère est un milieu offensif élégant, même s'il doit encore s'épaissir physiquement pour encaisser les chocs du football d'adulte. Dro Fernandez était courtisé par les plus grands clubs européens, Chelsea et Arsenal notamment. Le rôle de l'entraîneur, Luis Enrique, a été décisif pour convaincre le joueur de choisir la capitale française pour environ 8 millions d'euros. Avec un effectif amoindri par les blessures, on pourrait voir Dro Fernandez rapidement sous ses nouvelles couleurs.
Et puis la déroute continue pour Lille qui a vécu hier soir sa 5e défaite consécutive, toute compétition confondue, battue à domicile 4-1 par Strasbourg. Le LOSC se retrouve à la 5e place derrière Paris, Lens, Marseille et Lyon.
Le quintet, Élise, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Bayamoun. L'outsider, c'est le numéro 6, Amedras.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À 10h ce matin, début du procès en appel des complices du terroriste islamiste qui a décapité Samuel Paty. Bonjour Michaël Paty.
Bonjour.
Vous êtes la sœur bien sûr de Samuel Paty. Vous avez choisi RMC pour vous exprimer ce matin avant l'ouverture de ce procès en appel. C'est une nouvelle épreuve évidemment. Certaines voix réclament même la panthéonisation de votre frère pour marquer les esprits. Mais au fond, votre combat, c'est d'abord d'aller jusqu'au bout aussi de la reconnaissance de cet engrenage infernal dont a été victime votre frère. Je vous pose toutes ces questions dans un instant. La France a-t-elle changé depuis la mort de votre frère? La France s'est-elle réveillée? Vous êtes avec nous dans un instant. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. 6 ans après l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, sa sœur a choisi RMC pour s'exprimer ce matin. Bonjour Michaël Paty. Vous êtes donc la sœur de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 à la sortie du collège. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dans ce studio. Ce matin, c'est le début du procès en appel de 4 personnes impliquées dans l'assassinat de votre frère. Dans quel état d'esprit vous êtes?
Je trouve que c'est peut-être ce procès en appel un moment plus douloureux que le premier, parce qu'en fait, on va devoir réécouter, revivre exactement la même chose. Donc le poids, le coût est beaucoup plus important cette année en fait.
Plus dur encore parce que ça veut dire qu'il va falloir rejustifier en quelque sorte, comme si les choses n'avaient pas été comprises.
Il va falloir rejustifier et notamment il va falloir rejustifier que mon frère avait fait ce cours et qu'il n'était en rien discriminant. Parce que c'est ce qui a avancé par des avocats, notamment de Monsieur Sifrioui, de vouloir quelque part faire un procès à mon frère.
Il faut préciser effectivement que les 4 personnes qui font appel et qui seront donc rejugées à partir d'aujourd'hui, 2 sont des amis complices présumés donc de l'assassin lui-même, Abdullah Anzorov, et 2 autres sont ceux qui ont
ciblé, littéralement mis une cible sur votre frère. Il s'agit à la fois du père de la jeune fille qui avait menti à son père et qui lui avait dit, qui lui avait raconté un cours auquel elle n'avait tout simplement même pas était présente, puisque ce jour-là, elle avait été absente, elle avait inventé cette histoire auprès de son père. Et puis, le prédicateur islamiste dont vous parlez à l'instant, Abdelhakim Sefrioui, qui veut faire le procès même d'un enseignement, en réalité.
Oui, après, il avait fait déjà ça à l'époque. Donc maintenant, ça va juste être porté devant la cour. Et il va essayer de déporter, entre guillemets, ce qu'il considère être un problème pédagogique. Et que c'était légitime de sa part de le revendiquer. Sauf que, en fait, dans les faits, ses dires et ses vidéos ne parlent jamais d'un problème pédagogique, en fin de compte. Ils parlent d'un problème que ça serait un prof islamophobe. En fait, ils sont en train de qualifier mon frère pour qu'il devienne une cible.
Qualifier votre frère pour qu'il devienne une cible, et y compris encore aujourd'hui dans sa mémoire. Michael Paty, vous avez vous-même publié un livre qui s'appelle Le cours de Monsieur Paty. C'est aux éditions Albin Michel. Vous avez pris du temps avant de, j'allais dire presque, de ressortir la tête de l'eau et de vouloir aussi qualifier les choses, y compris pour la France. Je me souviens de cette phrase que vous avez prononcée. Vous aviez dit, on ne tient pas debout dans des pantoufles. Ce que vous vouliez dire, au fond, c'est que face aujourd'hui à la question des principes, de l'autorité, de la laïcité, on avait cédé, comme si on avait désormais plus de structure, comme si nous étions, en effet, comme vous disiez, dans des pantoufles. Et on ne tient pas debout dans des pantoufles. Est-ce que la France a changé depuis? Est-ce que ces alertes, est-ce que la mort de votre frère à réveiller l'éducation nationale et la France?
Je pense qu'on est bien loin d'une quelque forme de réveil. Il aurait fallu que le cours de mon frère fasse consensus, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de débats par rapport à ce sujet, alors que ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être porté en avant. Et c'est pour ça que ce livre a été créé, pour qu'il y ait au moins le support pour montrer quel cours il avait pu faire et dans quelles conditions.
Et il y a des appels au 32-16, certains pour nous dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire ou pas faire, parce que tout est un peu mélangé, religion, éducation. Mathieu, ces messages notamment
de Matt, qui est professeur des écoles. On est avec des élèves plus jeunes que des collégiens. Je peux témoigner de situations ubuesques, qui nous dit-il. On m'a ordonné de ne pas raconter l'histoire des trois petits cochons. Des parents refusent que leur enfant apparaisse sur la photo de classe pour des questions religieuses. Je ne veux pas stigmatiser, j'habite un quartier populaire, je suis un site depuis 22 ans, mais je constate qu'il y a des nouveaux parents, certains qui lient de façon maladroite la religion et l'éducation. Autre exemple, je ne dois pas faire de préhistoire et éviter le darwinisme.
Pas faire de préhistoire?
C'est ce que dit Matt ce matin sur WhatsApp RMC.
Le récit biblique. Il y a Sophie aussi qui nous appelle au 32-16. Bonjour Sophie. Vous
bonjour,
êtes enseignante dans le Loiret. La sœur de Samuel Paty vous entend. Vous vouliez aussi témoigner, vous, au quotidien, Sophie, de votre enseignement.
Oui, je suis enseignante en histoire géo, donc en enseignement moral et civique. Et donc, moi, je dis toujours à mes élèves que je n'ai pas peur, parce que la laïcité fait partie des principes de la République. Et jamais j'oublierai mon collègue qui a été assassiné de cette façon. Et je leur redis à chaque fois que la laïcité, c'est une chance d'avoir une liberté de conscience et le choix d'avoir une religion ou pas. Donc, voilà.
Vous le faites, vous dites sans avoir peur. Au quotidien, ça se passe bien avec vos élèves? Ils vous suivent là-dessus? Ils vous comprennent?
Oui, très bien. J'ai la chance de pouvoir enseigner sans problème. Moi, par contre, vraiment, je pense à mes collègues qui peuvent pas enseigner la laïcité, mais moi, je l'enseigne, comme le droit de vote, comme les problèmes de discrimination dont vous parliez tout à l'heure.
Les discriminations au logement, toutes ces choses-là, vous pouvez en parler avec vos élèves. Sophie, et c'est aussi à ça que je voudrais que vous puissiez réagir, Michael Paty, ce sont ces témoignages de professeurs, certains qui disent avec, on le sent presque une émotion dans la voix, Sophie, quand vous dites, voilà, moi je pense sans cesse à mon collègue Samuel Paty, vous en rencontrez beaucoup, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il existe encore le pas de vague?
Oui, il existe encore le pas de vague, il est vraiment omniprésent. Après, vous voyez, on a un peu deux discours. On a des enseignants qui sont véritablement confrontés à des énormes difficultés à faire passer nos principes et nos valeurs, alors que d'autres ne sont pas confrontés. Donc c'est difficile de réussir à faire une sorte de réveil global, puisque tout le monde ne se sent pas concerné par le problème.
Certains ont évoqué la question de la panthéonisation de votre frère. Le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il faut y réfléchir. Quelle est votre position là-dessus?
Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Parce que rentrer au Panthéon, c'est un petit peu une sorte de consécration quand il n'y a plus de débat. En fin de compte, le cours de mon frère a fait consensus que tout le monde est d'accord. On n'en est pas encore là. La preuve, c'est qu'il suffit simplement de venir 5 minutes au procès et vous comprendrez que ce cours fera encore débat. Donc, autant je suis pour, mais autant je pense qu'il...
Pour vous, ça n'est pas la priorité.
Ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord rétablir, corriger tout ce qui ne va pas au sein de l'éducation nationale.
Au sein de l'éducation nationale, vous dénoncez sans relâche l'entrisme islamiste, non seulement dans l'éducation nationale, mais aussi dans notre société. Est-ce que vous êtes entendu là-dessus, aussi par les politiques? Est-ce que vous avez ces échanges-là?
Avec certains, j'ai pu avoir ces échanges-là. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore difficile à faire passer comme message, c'est que l'antislamisme a une porosité avec le terrorisme. Et je pense que le procès de mon frère l'année dernière, c'est ça qui a été montré. Que, en fin de compte...
Que ça tue. Que dénoncer, et c'est évidemment aussi la question au cœur de ce procès, puisque ce prédicateur islamiste et le père radicalisé de cette jeune élève de votre frère, au fond, sont deux personnes qui eux-mêmes n'ont pas tenu le couteau qui a décapité votre frère, mais qui a ciblé et ensuite nourri dans l'esprit celui qui est passé à l'acte.
Oui, c'est indubitable que s'il n'avait pas été là, donc le père et
le
prédicateur qui est son soutien, qui est omniprésent. Ils échangent quand même parfois plus de 100 fois par jour sur ce sujet. Donc c'est quelque part, il y avait bien un projet derrière qui était pensé et qu'ils ont alimenté en permanence. Ils savaient le risque qu'ils faisaient prendre à Samuel, c'est évident.
Et Samuel Paty, lui-même, savait le risque qu'il encourait. Je pense régulièrement à la solitude de votre frère lorsqu'il quitte le collège et qu'il est traqué, qu'il se sent traqué, angoissé. Il a mis, et ça paraît dérisoire a posteriori, un marteau dans son sac à dos, se disant que peut-être il devrait être confronté au fait de se défendre. Il n'en a pas même eu le temps. Merci, Michael Paty, d'être venu ce matin, au matin donc de l'ouverture du procès en appel des complices de ceux qui ont été condamnés une première fois comme complices donc de l'homme qui a assassiné votre frère. Michael Paty, donc sœur de Samuel Paty, je recommande votre livre Le cours de Monsieur Paty, c'est aux éditions Albin Michel. Il est 7h50 et vous êtes bien sûr RMC. Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La gauche, alors la gauche hors LFI annonce une primaire pour l'automne prochain pour désigner un candidat. Est-ce que la droite doit l'imiter?
Oui, je pense, c'est ça qui lui donnera sa chance et qui fera émerger un chef.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC. 7h52, bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour,
la gauche, hors LFI, prête à une primaire. Ce sera même le 11 octobre prochain, déjà la date. Alors à droite et au centre, les prétendants appellent éventuellement quelques candidats à se parler, en tout cas en se disant qu'il faudrait une sorte de corpus commun. Bon, vous êtes la voix de droite, il faut que la droite fasse quoi?
Il faut que la droite fasse la même chose. Et votre voix de droite, Apolline, je vous le dis, se désole d'une chose. Nous n'avons, au centre et à droite, plus de chef, plus de ligne, plus de projet. L'empire de l'UMP s'est effondré et a laissé derrière lui des dizaines de petits états successeurs. Depuis Nicolas Sarkozy, la droite et le centre n'ont cessé de se diviser, de se chamailler, de se disperser. Il y a désormais plus de candidats au centre droit qu'il n'y a de jours dans l'année. Si cela continue, attendez-vous un duel Mélenchon-Bardella au deuxième tour. Deux représentants, eux, de partis unis, cohérent et motivé.
La primaire, c'est une solution?
Je le pense et j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que le conflit fait émerger un vainqueur. Parce que la démocratie vit non pas du consensus, mais de la confrontation. Je ne m'inscris pas du tout, chère Apolline, dans une politique de l'unité. Au contraire, laissons les princes s'affronter. Laissons-les se dévoiler. Laissons-les saigner. C'est ainsi que naît ce qui manque aujourd'hui aux prétendants, la légitimité. La France est un pays intransigeant, elle n'accorde pas sa confiance aux plus sympathiques, ni même aux plus rassembleurs, elle la donne seulement aux vainqueurs.
Mais enfin, c'est contraire à la négociation qui d'habitude est prônée par ces hommes de droite.
Rien n'est moins français que cela, chère Apolline. La France est bonapartiste en tout. Il nous faut un chef, c'est même évident. Dans notre sport, nous n'avons pas des équipes de football construites autour de quelques joueurs solides qui s'effacent pour le collectif, comme en Italie ou en Espagne, par ailleurs. Nous avons un Platini, nous avons un Zidane, nous avons un Mbappé. Si la droite et le centre veulent renaître, c'est avec un chef auréolé de victoire et un projet qui a conquis les autres qu'ils y parviendront.
Le Rassemblement national semble aujourd'hui extrêmement puissant, en tout cas dans les sondages et les intentions de vote. Quel est le projet qui permettrait à la droite, effectivement, d'y faire face?
Oui, le RN est puissant, très puissant, mais unidimensionnel. Il règne sur le régalien, plus personne n'en doute, mais balbutie et trébuche sur l'économie, sur l'international, l'assistanat, sur le social. La vérité, c'est que le RN est un parti socialiste anti-migratoire. Non, ils ne sont pas fascistes. Pire, ils sont incompétents. Si la droite veut renaître, elle doit s'incarner dans le vide qui laisse la baisse massive de la fiscalité, la réduction de la dépense publique, la glorification du travail et de l'entrepreneuriat, la démographie, la culture, le rayonnement international, réduire l'immigration, oui, et les impôts, assurer la sécurité et le pouvoir d'achat, faire l'amour pour relancer les naissances et briller à l'international. C'est là que les Français nous attendent.
Il y a une partie du programme au moins qui globalement devrait pouvoir faire consensus. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un prêt à incarner ce projet, ou alors au contraire vous vous dites justement c'est pour ça qu'il faut une primaire?
C'est pour ça qu'il faut une primaire, pas encore de champion. Je laisserai les combats à venir le couronner ou la couronner, mais je dirais ceci: trop souvent les personnalités du centre et de la droite ont eu peur de la radicalité. Je pense que c'est une erreur. Notre époque est radicale. Les gens hurlent au changement, au mouvement, à l'action. Il faut l'incarner. Les jeunes de ce pays en particulier sont les grands oubliés, les grands exploités de notre système. Souvenez-vous du mouvement Nicolas qui paye. Si nous n'allons pas les chercher avec les dents, nous risquons de les perdre à jamais.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Vous serez de retour mercredi, demain ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Et puis notez, tiens, qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Raphaël Glucksmann. Justement, est-ce qu'il participera à cette primaire de la gauche qui a donc été lancée ce week-end par le Parti Socialiste, en tout cas par Olivier Faure? Demain, 7h50, je le disais, la voix de gauche. Dans un instant, le journal de 8h, et juste après
merci
le journal, merci Louis Sarkozy, juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Lechypre. Emmanuel, on risque de toucher un peu moins de notre salaire à la fin du mois.
Mais oui, quelques euros en moins sur la fiche de paye, c'est pas la faute de votre patron, je vous explique tout.
À tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le débat sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut les interdire aux moins de 15 ans. Une proposition de loi arrive dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un procès inédit qui commence à Paris. L'ancien sénateur Joël Guerriau, jugé pour tentative d'agression sexuelle sur la députée Sandrine Josso. C'est RMC qui vous a révélé cette affaire. Et la tension, vous verrez, qui ne retombe pas aux États-Unis, dans la ville de Minneapolis, après la mort d'un homme tué par la police fédérale durant le week-end.
Emmanuel Macron veut que ça aille vite.
Oui, le président a annoncé durant le week-end le lancement d'une procédure accélérée pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée de septembre via une proposition de loi qui sera examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, le texte dit qu'il faudra prouver son âge en envoyant un document d'identité à un serveur pour pouvoir s'inscrire à l'avenir sur un réseau social. Eh bien voilà ce qu'en pensent parents et enfants avec Louise Salé pour RMC.
Pour ces collégiens de 13 et 14 ans, l'idée de supprimer leur compte sur TikTok ou Instagram est difficilement envisageable.
Souvent quand on a fini les devoirs, qu'on est fatigué, ça détend, ça déstresse et voilà. J'aimerais pas qu'on l'interdise.
Moi je trouve que c'est un peu abusé parce que ça va, je sais me contrôler, quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter.
On trouve toujours des manières en fait d'avoir les réseaux sociaux, donc ça sert pas à grand chose.
Beaucoup anticipent en effet une loi peu applicable comme Lola, 13 ans, qui trouve quand même l'idée intéressante.
C'est sûr qu'il y en aura qui frauderont, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens honnêtes qui vont attendre 15 ans. Moi, j'ai pas Snapchat ni quoi que ce soit, et je vis très bien sans.
Pour les parents, cette loi serait aussi un argument de plus incontestable face à l'insistance de leurs enfants, Volsi et mère d'une ado de 13 ans.
Bah, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est un repère. Les problèmes de harcèlement viennent souvent des réseaux sociaux. Toutes ces histoires peuvent quand même nous convaincre que c'est pas une bonne idée, qu'ils sont trop jeunes.
Le texte aujourd'hui examiné à l'Assemblée comprend également une mesure pour interdire le portable dans l'enceinte du lycée.
Tiens, et à l'heure du tout numérique, il y a cette nouvelle affaire embarrassante de vol de données à la Fédération française de chasseurs qui dit avoir été victime d'une cyberattaque la semaine dernière, comme il y a quelques mois, on s'en souvient, à la Fédération de tir, Léonie Guilbault.
Oui, des noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses postales de chasseurs seraient en vente sur le Dark Web depuis mercredi. C'est l'interface en ligne utilisée par les adhérents pour gérer la validation de leur permis de chasse qui a été piratée. La Fédération nationale des chasseurs précise qu'aucune donnée bancaire ou liée à la détention d'armes n'est concernée par l'incident. Mais Corinne Henin, experte en cybersécurité, alerte. Ces données peuvent tout de même être utilisées par les malfaiteurs.
Pour trouver des endroits ou cambrioler pour aller récupérer des armes. Le raccourci est vite fait. Ces personnes ont du matériel pour faire du tir et donc ont des armes chez eux. Le fait d'avoir les adresses des personnes, ça va faire des cibles privilégiées pour ce genre de cambriolage.
C'est ce qui s'est passé après le piratage de la Fédération française de tir. En octobre dernier, plusieurs cambriolages à Nice, Lyon, Paris et Limoges ont suivi la fuite des adresses des licenciés. Une plainte a été déposée par la Fédération des chasseurs et c'est la cellule cyber de la gendarmerie qui est en charge de l'enquête.
C'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et pour deux jours au tribunal correctionnel. L'ancien sénateur Joël Guerriot va être jugé pour tentative d'agression sexuelle sous soumission chimique de la députée Sandrine Josso. Affaire qui remonte à novembre 2023 et que vous aviez révélé à l'époque, Guillaume Bier.
Oui, du jamais vu entre deux parlementaires. Ce soir-là, Joël Guerriot invite Sandrine Josso à venir fêter sa réélection dans son logement parisien. Mais sur place, elle découvre qu'elle est la seule convive et que le champagne a un goût bizarre. Bouffée de chaleur, palpitations, nausées. La députée se sent très mal face au sénateur qui lui fait des tours de magie, joue avec l'intensité de la lumière et manipule un petit sachet en cuisine. Sandrine Josso parvient à s'enfuir. Les analyses prouvent qu'elle a ingéré de l'ecstasy et une forte dose de MDMA, des drogues de synthèse. Elle est donc persuadée que Joël Guerriot l'a droguée à son insu pour la violer. Ce que l'ancien sénateur a toujours contesté, il plaide l'inadvertance d'une flûte à champagne mal nettoyée et assure avoir acheté cette drogue pour lui, car il était déprimé, notamment après, je cite, « la mort de son chat ».
8h04 sur RMC, ça ne finit jamais en Bretagne.
À nouveau, trois départements, nous dit Géraldine, en vigilance orange pour les risques d'inondation encore à partir de ce soir en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et le Morbihan, comme ici, écoutez, à Mal-l'Étroit, près de Plohermel, où cet habitant, Philippe, a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel.
Ça escale toutes les maisons, faut nettoyer, puis après ça revient, c'est répété souvent, quoi. C'est usant pour ceux qui y habitent, c'est vrai, hein. C'est stressant, c'est... Voilà.
Et vous allez souvent voir du coup le canal, vous surveillez ?
Souvent, une fois peut-être par jour, oui. Enfin, on peut faire que ça, hein, regarder, mais bon, on peut rien faire. Le feu, tu peux l'éteindre, mais la flotte, tu peux pas l'arrêter.
Et alors, les États-Unis, eux, sont balayés en ce moment par la plus grosse tempête polaire depuis 40 ans, avec des images impressionnantes de neige à New York et au moins 10 morts, une vingtaine d'États qui ont décrété l'état d'urgence. Malgré le froid, il y avait encore une manifestation, des centaines d'Américains, hier dans la ville de Minneapolis, après la mort d'un homme de 37 ans, tué par la police fédérale durant le week-end, deux semaines après une autre affaire impliquant la police de l'immigration, cette fois, police qui est plus que jamais renforcée hein, depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. C'est ce que nous disent Français, écoutez-le, habitants de Minneapolis.
Effectivement, là, on a passé un cap. Malheureusement, ces deux personnes tuées, c'est la concrétisation de l'impunité, du manque de formation et de la carte blanche que ces agents fédéraux ont. J'ai plus la confiance qu'il y a un état de droit et qu'il y a quelqu'un qui me protège quelque part. En me disant, si je fais rien de mal et si je provoque personne, il devrait rien m'arriver. Et cette assurance, je l'ai plus. Dans les zones concernées, des quartiers assez cosmopolites, plutôt sympas d'habitude. Là, certaines écoles, la semaine dernière, ont fermé quelques jours, certains restaurants, certains commerces, pour pas mettre en danger leurs élèves, pour mettre en danger leurs employés, les gens se sentent plus en sécurité chez eux.
Alors Donald Trump impute cette dernière affaire à Minneapolis aux démocrates. Les anciens présidents Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut. Le foot, c'est la crise qui continue à Lille. Battu 4-1 par Strasbourg hier soir pour la fin de la 19e journée de Ligue 1. C'est la 5e défaite d'affilée pour les Lillois. Le foot, c'est aussi ce qui se passe, écoutez, dans les divisions amateurs. On constate que désormais des arbitres portent des caméras piétons, comme les policiers, en fait, pour lutter contre les violences et les menaces dont ils font parfois l'objet. Mais on parle là de catégorie amateur, hein, comme hier, lors d'un match de challenge départemental à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est près de Rennes, Kevin Morand.
Oui, et dans le vestiaire avant le match, l'arbitre sensibilise les deux capitaines.
C'est lui qui refuse d'être filmé, pas être sur la feuille des matchs. C'est qui est pour la prévention, pour la sécurité.
Le match a été jugé à risque par le district d'Ille-et-Vilaine. L'arbitre Aliou Dieng porte donc au niveau du torse une caméra embarquée.
Et pour la lancer, j'ai juste appuyé sur le bouton. Et là, du coup, ça enregistre. Si je vois que le match commence à être compliqué, du coup, je vais lancer la caméra. pour me protéger et pour protéger les joueurs aussi.
La rencontre entre Saint-Jacques-de-la-Lande et Chartres-de-Bretagne s'est finalement déroulée sereinement.
Justement, je pense que c'est grâce à la caméra que ça a été un match tranquille.
Le capitaine de Chartres, Richard Leget, salue cette expérimentation.
Je pense que c'est très très bien. On peut voir dans certains clubs d'attention, avoir un public un petit peu virulent. Nous, je pense en tant que joueurs, ça nous permet de se canaliser, surtout en district, surtout en coupe.
42 districts et ligues cette saison testent ce dispositif porté par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football.
Ces caméras portatives ont un effet, je l'espère, dissuasif. Ces images pourront servir de preuve pour nos commissions de discipline, voire pour la justice.
Après un bilan en fin de saison, ces caméras embarquées pourraient être généralisées sur les matchs amateurs à risque.
Les Bleus du rugby se réunissent à partir d'aujourd'hui à Marcoussis pour préparer le tournoi Destination qui commencera dans 10 jours contre l'Irlande. Mais mauvaise nouvelle, il y a deux joueurs de La Rochelle, Antonio et Boudéan, qui sont blessés hier soir lors de leur défaite 32-27 à Clermont. Et puis il va y avoir des déçus. C'est aujourd'hui normalement que sera dévoilée la liste des Français retenus pour les JO de Milan-Cortina en ski alpin. Mais il y a moins de place que prévu pour les Français. Et certains, comme le multiple médaillé Alexis Pinturault, sont en sursis et pourraient donc ne pas disputer les JO qui seront à suivre évidemment sur RMC.
8h08, c'était le journal de Quentin Vinet. Et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel, notre fiche de paye de janvier va subir un coup de rabot.
Nous pourrions perdre jusqu'à une quinzaine d'euros par mois sur notre feuille de paye à partir de janvier, ou parce que effectivement, on va subir quelques prélèvements supplémentaires, et donc je vous le dis tout de suite, ça n'est pas la faute de votre entreprise, ça n'est pas la faute de votre patron. Votre salaire brut ne bouge pas, c'est plutôt entre le salaire brut et la trentaine de lignes de prélèvements divers qui le séparent du salaire net qu'il faut chercher les explications à cette diminution.
Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on va nous prélever en plus?
Alors, il y a d'abord l'augmentation des mutuelles entre 5 et 6%. Ça pourrait représenter une baisse nette de salaire de 6 à 10 euros par mois. Vous pouvez le vérifier. Vous prenez en référence votre fiche de paye de décembre et vous allez à la ligne complémentaire santé obligatoire, colonne par cotisation salariée. Et puis, il y a ensuite l'abonnement à un service de transport dont une partie est remboursée par l'employeur. En Île-de-France, par exemple, le pass Navigo augmente de 2 euros, de 88,80 euros à 90,80 euros.
Et puis, il y a la question du prélèvement à la source.
Et oui, parce que sans aucune intervention de notre part, eh bien, l'administration fiscale réajuste automatiquement en début d'année le taux de prélèvement à la source en fonction des revenus qui ont été déclarés l'an dernier. Il faut savoir que la règle, c'est que vous avez environ 2/3 des foyers dont les revenus augmentent d'une année sur l'autre, 1/3 dont les revenus baissent. Là, on a à peu près 30 millions de Français qui pourraient être concernés. Donc, il faut le rappeler, cette diminution de la fiche de paye, c'est bel et bien une augmentation des prélèvements, prélèvements qui vont atteindre les prélèvements obligatoires en 2026.
Donc, ça va durer, c'est pas seulement sur la fiche de janvier, c'est à partir de
à partir de janvier, absolument. Prélèvement obligatoire.
Et le nombre de politiques qui nous disent nous, on va vraiment rapprocher le net du brut.
Ah bah oui,
ça s'en éloigne.
Eh bien, on continue à s'en éloigner.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint sur RMC à 8h30. Notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera le député européen Place Publique, Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il sera candidat dans la primaire de la gauche qui a commencé à être évoquée ce week-end par Olivier Faure? Et puis, juste après cela, il y aura Nicolas Cantelou, comme chaque matin, qui vient avec ses imitations. Face à Cantelou, c'est tous les jours, 8h50 sur RMC. On se retrouve dans un instant, il est 8h10.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h13 et c'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Et qu'il rentre sur ce petit saxophone jovial. Bonjour les amis. Alors ce matin, je suis désolé, le monde va mal. Menace de guerre, vague de froid, crise politique et en plus on est tous malades. Et pour ne rien arranger, en plus, c'est le retour de la tectonique. Les dieux nous ont maudits, Apolline. Ça revient sur TikTok. Apo, est-ce que vous dansiez la tectonique il y a 20 ans?
Oh, j'ai dû tenter, quoi.
Ouais.
Danser, à mon avis, c'est un grand mot, mais enfin, tenter de le danser, ouais.
Vous étiez coiffé avec un palmier sur le côté.
Oh, j'ai fait.
Des fringues fluo trop petites. Ouais. Mathieu, vous l'aviez, le palmier sur le côté.
Les fringues ont toujours été trop petites.
Meilleur van ever. Voilà.
Je vais m'en aller. Moi, je vais laisser finir la chronique.
Je pense qu'il est
meilleur que moi. Donc voilà, la tectonique qui avait quitté Paris il y a 20 ans et qui vient tout juste d'arriver à Mulhouse. René aussi sur les réseaux. Finalement, vous voyez, l'invasion russe, on la souhaite pas, mais Est-ce que ça aurait que des inconvénients? En tout cas, si c'est le cas, de toute façon, on aura notre président pour nous défendre avec ses lunettes de Tom Cruise. Qu'est-ce que ça lui a donné comme charisme, les Ray-Ban, là? C'est devenu Ray-Banuel Macron, maintenant. Le fabricant, il en vend plein des lunettes. C'est les lunettes de luxe Henri Julien, 650 balles la paire. Et ça y est, Macron a enfin réussi à faire payer les riches pour quelque chose. Alors oui, c'est cher, mais en même temps, avec, vous faites tomber les plus puissants de la planète à Davos. Donc voilà, 650 balles pour devenir maître du monde, c'est une bonne idée. Je suis sûr que son œil est guéri en vrai. Hein. Ça fait une semaine qu'il est guéri, mais il garde les lunettes, il a compris que ça lui donnait du style. Il est redevenu un peu populaire grâce à un orgelé. C'est comme quand on avait un plâtre quand on était au collège, on devenait tout de suite plus cool. D'ailleurs, c'est là-dessus que Gilbert Montagné a fait carrière. C'est surtout parce qu'il est aveugle que c'est balèze, parce que sinon, c'est de la variétoche. C'est sympa, mais c'est classique, d'autres en ont fait. Philippe Croizon, avec des jambes et des bras, est moins épaté pendant la conférence sur la résilience. Un grand corps malade sans les béquilles, c'est juste un grand mou qui fait du slam. Non, mais c'est les béquilles qui font tout. Les gens, ils vont pas pour le slam. Le slam, c'est du rap mou dans une forêt de béton. Je pense à mon frère en prison. Une larme coule, je suis peiné. Pourquoi est-il sans liberté? En plus, pardon, ils disent tous ça, ils pleurent si leur frère est en prison. Moi, si mon frère est en prison, je suis désolé, je pleure pas. Enfin, je suis contrarié à la limite. Oui. S'il est là-bas pour avoir tué quelqu'un, je suis plutôt content qu'il y soit. Ça me permet de plus partager ma chambre avec.
Oui, c'est sûr.
Bref, pour revenir au sujet, les lunettes lui donnent du charisme.
Le sujet des lunettes.
Je suis sûr qu'il était chez le tatoueur ce week-end.
Tu peux me faire un aigle sur le torse qui tient deux kalachnikovs en or sur un crâne avec des flammes. C'est pour le prochain G7. Je voudrais ouvrir ma chemise torse nu pendant un discours. Il va se faire mettre des grills. Vous savez, les appareils dentaires des rappeurs, là, tout en diamant. Trump ne sait pas quelle bête il a réveillé.
La mort d'un Américain abattu par la police des frontières à Minneapolis relance les tensions aux États-Unis et notamment autour de ICE.
Oui.
Non, pas celle-là.
ICE, la police de l'immigration, c'est la pire création avec ce nom depuis Vanilla Ice. On est tous choqués parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des adultes américains abattus dans la rue. Enfin, d'habitude, ce sont des enfants dans des écoles. Voilà, ça on sait. Mais donc on est choqués. Je sais, c'est noir comme humour, Apolline. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez?
On fait avec ce qu'on a.
Moi, j'ai un humour qui est tellement noir, lui aussi, pour être abattu par un agent de l'immigration américaine. Alors, toujours à contre-courant, le JDD de Bolloré a publié ce dimanche un article sur les méchants antifas de la gauche qui empêchent la gentille brigade anti-immigration de faire son travail. Putain, le JDD en 43, ça aurait été quelque chose. Hein.
De vils saboteurs ont empêché les convois allemands de traverser les beaux ponts qui font la fierté de notre pays en y déposant de l'explosif. Dans toutes les villes de France, des contestataires s'opposent au contrôle d'identité des ennemis de la nation par les forces du régime légitime de nos cousins d'outre-Rhin.
Ça aurait été magnifique.
Oh mon Dieu ! Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre. Oui, c'est une information qu'on vous donne ce matin. Il devrait procéder bientôt à un remaniement gouvernemental à cause des municipales.
Oui, il l'est toujours parce qu'il y avait eu le motion de censure.
Oui, voilà. Tout ça. Donc, finalement, il est relâché.
Remaniement, Rachida Dati se lance à Paris, mais il n'y a pas qu'elle. Marina Ferrari se lance à Aix-les-Bains. Et Michel Fournier pourrait aussi quitter le gouvernement pour reprendre sa carrière de tueur en série.
Non,
je déconne. C'est pour se présenter à la mairie des Voivres dans les Vosges.
C'est chaud.
Non, mais quand tu préfères aller vivre au Voivre dans les Vosges plutôt que de faire partie du gouvernement, c'est vraiment que c'est un job pourri, en fait. Après, peut-être que les Voivres, c'est génial. On sait pas. Allez-y en vacances.
Oui.
Un paysage envoûtant. Un climat tellement vosgien. Une température de 7 degrés toute l'année. Quand nulle part est votre destination, découvrez les Voivres. Là où un instant dure toute la vie. Là où deux jours chez nous vous donneront l'impression d'y être depuis 6 mois. Fuyez le bling-bling de la Meurthe-et-Moselle. Et découvrez plus de 1000 nuances de bouse de vache. Relaxez-vous dans la chambre d'amis de la ferme à Gérard, située à côté du bistrot à Robert. Les Voivres. Venez vous vider la tête et repartez avec encore moins de souvenirs qu'en arrivant. Et retrouvez le plaisir de rentrer chez vous quand c'est fini. Vous voyez, ça a l'air super.
Moi, j'y vais. Hein.
La matinale là-bas. On déloque. Allez, on déloque.
C'était Arnaud Demanche, mesdames, messieurs. Tous les jours en direct à 7h20, à 8h20, à tout moment également en podcast. Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir ce matin à la prise de parole ce matin de la sœur de Samuel Paty, Mickaël Paty, qui était avec nous à 7h40. Et vous, vouliez réagir, bonjour. Vous ne souhaitez pas qu'on dise votre nom. Vous êtes enseignant dans le Nord. Je vous accueille pour que vous nous racontiez aussi ce à quoi vous êtes confronté au quotidien.
Oui, bonjour Apolline. Tout d'abord, l'émotion me gagne non pas parce que je passe pour la première fois à la radio, mais parce que je vais évoquer un monsieur. Ouais. Monsieur Paty, d'ailleurs je considère que Samuel appartient à sa famille et qu'on devrait tout simplement l'appeler Monsieur Paty. Mmh. Je trouve totalement aberrant que ce soit la famille qui fasse les démarches pour la comptabilisation de ce monsieur. Mmh. Ça me perturbe. Et puis pour mon cas personnel, ce sont des épiphénomènes qui cumulés montrent que effectivement il y a une certaine dérive. Dans mon point de vue personnel, j'ai eu un moment de ma carrière où j'enseignais en maternelle. Ouais. Et quand j'ai lu et monté un projet sur l'histoire des trois petits cochons, j'ai eu un tiers de la classe d'enfants qui pleurait. Et donc, on m'a fortement conseillé, du point de vue des parents, de...
Il pleurait à cause du loup ou il pleurait à cause des cochons?
À cause du cochon.
Parce qu'on ne peut pas parler des cochons.
Tout à fait. Alors, je ne veux absolument pas stigmatiser une religion, je la respecte totalement. Moi, je fais juste un relais de terrain de ce que je constate depuis 22 ans, parce que j'exerce depuis 22 ans.
Ouais.
Et puis, un autre épiphénomène, hein, que là, je ne comprends toujours pas, c'est que j'ai souvent, donc je travaille souvent, quasiment tout le temps en REP+, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire.
Ouais.
Et très souvent, à chaque année, en photo de classe, j'ai au moins 4-5 élèves où les parents refusent que l'enfant apparaisse sur la photo de classe pour des raisons religieuses.
Ah, alors moi, parce qu'on ne doit pas faire de représentation.
Voilà, moi je suis très curieux, j'essaie de comprendre. Mmh. Donc tous les matins, je prends un café dans un bistrot très populaire où il y a une population musulmane et des anciens. Donc j'explique, j'essaie de comprendre. Et en fait, ils m'expliquent que c'est cette nouvelle génération qui pervertit ce texte sacré.
Mmh. Et que ça, c'est ce que vous disent les plus anciens.
Mais bien sûr, à aucun moment, un verset n'explique que l'enfant ne peut pas être en photo. Mmh. Et vous voyez, cette démarche qui... et encore une fois, je n'ai rien contre l'islam, absolument rien.
Qu'est-ce que vous dit la hiérarchie, par exemple, quand vous parlez des trois petits cochons ou quand...
Je n'évoque pas.
Vous ne parlez pas. Ouais, on ne fait pas remonter. Ouais.
Comme je disais au standard, l'armée, la grande muette, l'éducation nationale, c'est pas mal non plus.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner ce matin, donc de votre quotidien aussi de prof. Je précise que vous ne souhaitez pas qu'on donne votre prénom. On pourra simplement préciser que vous êtes professeur dans le Nord. Il est 8h22, dans un instant la politique. Mon invité c'est Raphaël Glucksmann, député européen. Mais est-ce qu'il est aussi candidat, puisque ça y est, c'est lancé, la primaire de la gauche, ce sera le 11 octobre prochain. Est-ce qu'il est inscrit? Est-ce qu'il a pris son ticket? Je lui pose la question dans un instant, Raphaël Glucksmann.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes député européen place publique. De très nombreuses questions à vous poser sur la manière d'ailleurs dont vous qualifiez la période que l'on traverse, le chaos du monde. Mais d'abord pour savoir au fond qui est devant moi, cette question bien sûr, vous l'avez entendu, vu, je ne sais même pas si vous étiez au courant d'ailleurs, la primaire de la gauche, tout a l'air sur des rails, on a même la date, ce sera le 11 octobre 2026. Est-ce que vous en serez?
Non. Je n'en serai pas, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit la manière d'enclencher une dynamique pour les élections qui seront vitales de 2027. Et donc non, je n'y serai pas. Et je l'ai dit depuis le début, je ne changerai pas d'avis dessus. Vous savez, cette primaire, c'est en quelque sorte une volonté de ne pas choisir. De ne pas choisir entre les deux pôles qui existent à gauche et qui sont structurés et qui sont les deux identités politiques puissantes. D'un côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, le populisme, la brutalisation du débat public, le refus de l'Union européenne. Et de l'autre, vous avez une gauche social-démocrate qui assume de vouloir gouverner le pays, qui est viscéralement pro-européenne. Et c'est l'affirmation de ces deux pôles qui permettront d'enclencher des dynamiques au moment des élections, pas cette primaire qui refuse de choisir.
Mais je
ne
comprends pas, parce que quand on écoute Olivier Faure, il a l'air de dire qu'en effet, il n'est pas question d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez l'impression que c'est vicié.
Mais la moitié des gens qui participent à cette primaire sont pour des accords avec Jean-Luc Mélenchon.
C'est le cas notamment d'Europe Écologie Les Verts.
Mais oui, vous avez par exemple hier, vous aviez une législative partielle dans la troisième circonscription de Haute-Savoie. Vous aviez un candidat place publique allié au Parti Socialiste. Et qu'est-ce qu'ont fait les Verts? Ils ont choisi le candidat LFI qui fait 6% et qui nous empêche d'aller au deuxième tour. Donc en fait, il y a ce refus du choix. Et moi, je ne participerai pas à cette primaire qui ensuite débouchera sur une candidature qui sera le plus petit dénominateur commun entre eux tous et qui finira dans une compétition plus à gauche que moi, tu meurs. Et finalement, pour aller aux législatives après cette bonne année au présidentiel, faire des deals avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux un autre chemin, une autre voie. Et je m'appuie sur quoi? Sur ce que nous avons fait aux élections
c'était
européennes.
C'était une mascarade, en fait. Si je vous écoute, ce qui s'est passé, en fait, ça ne compte pas, quoi.
Bah, je pense qu'à un moment, il faudra qu'ils choisissent, c'est tout. Et je m'appuie sur cela, sur ce que nous avons fait aux élections européennes. Depuis plus de 10 ans, la gauche social-démocrate n'avait pas fait 10% à une élection. C'était 6, 2, enfin tout ce que vous voulez. Là, on a fait 14%. Pourquoi? Parce qu'on a assumé une ligne claire, un cap clair, qu'on a été cohérent, qu'on a assumé la confrontation avec Mélenchon, qu'on a assumé notre identité politique. Et c'est sur ce socle-là qu'il faut bâtir.
Mais sur quoi vous fonderez votre légitimité si c'était vous qui incarniez du coup cette gauche? Comment il faudra bien un moment ou un autre que vous disiez c'est moi?
Non mais... ce que je propose, moi, au Parti Socialiste, puisque ce sont nos partenaires et c'est la force principale de gauche anti-Mélenchon, eh bien, ce que je propose, c'est que nous créons ensemble une plateforme qui commence par quoi? Par se mettre d'accord sur le fond, pour savoir quel type de campagne nous allons mener et de quelle manière, dans quel but nous allons gouverner ce pays. Parce que l'ambition... c'est de gagner les élections. Ce n'est pas de se placer à gauche pour récupérer ensuite les ruines qui seront héritées de 2027. C'est de gagner cette fois-ci.
Mais ça veut dire que si le Parti Socialiste, finalement, derrière Olivier Faure, alors on n'a pas très bien compris d'ailleurs, mais enfin, c'est pas le propos ce matin, mais Olivier Faure, effectivement, était sur la photo de ce lancement, donc, de cette primaire, mais officiellement, il ne le faisait pas pour le Parti Socialiste, ou en tout cas, sans mandat du Parti Socialiste. Mais bref, imaginons que le Parti Socialiste... vraiment accepte le principe de cette primaire, ce sera dans ces cas-là sans vous.
Mais
ça rompra votre pacte avec
vous. De toute façon, sans moi. Mais moi, ce que je propose à mes partenaires socialistes, c'est de faire une plateforme commune qui permette ensuite d'enclencher une dynamique électorale. Ce que je veux, c'est que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Et sur les retraites, à 60 ans ou pas, sur la construction d'une Europe puissante, sur la défense européenne, sur tout un tas de sujets, sur l'énergie. Nous ne sommes pas d'accord entre nous avec les gens qui participent à cette primaire. Donc, si l'idée, c'est de faire une synthèse, une sorte de gloubi-boulga qui met la poussière sous le tapis, ça ne fonctionnera pas. La seule manière d'enclencher... En plus, il y a vraiment des leçons. Enfin, je veux dire, on a vécu 2017 et 2022. Notre espace politique s'est fait ratiboiser. Ratiboiser par Jean-Luc Mélenchon, pourquoi? Parce qu'il assume, lui, ce qu'il est. Il assume de cliver, il assume de trancher les questions. Et donc, à la fin, il produit une vision cohérente. Eh bien, ce n'est pas la nôtre. Et donc, nous, on doit produire une vision cohérente nous-mêmes, assumer de trancher, assumer de cliver et assumer jusqu'au bout ce que nous sommes.
En tout cas, les choses sont très très claires là et vous sillonnez la France, vous étiez dans les Deux-Sèvres cette semaine, en Haute-Savoie la semaine d'avant, vous serez à Grande-Synthe cette semaine. Vous êtes clairement dans ce moment de campagne pour préparer cette plateforme.
Et pour construire un projet, exactement. Dans les Deux-Sèvres, j'étais avec des enseignantes et des enseignants. Vous savez que la France est aujourd'hui le pays qui paye le plus mal en Europe en rapport avec son PIB, qui paye le plus mal ses professeurs. La France a été construite par l'école. C'était les hussards noirs de la République qui ont fait la République. Et aujourd'hui, nous laissons l'école péricliter. L'éducation sera au cœur du projet que nous proposons pour la France. C'est le cœur du métier à tisser qui fabrique des Français, en fait.
Je vous interrogerai.
Et de la même manière, à Grande-Synthe, de quoi nous allons parler? D'industrie. Comment on peut imaginer être une grande nation, une nation souveraine, quand on a laissé la désindustrialisation se produire, quand on a laissé délocaliser nos systèmes de production? Et aujourd'hui, nos industriels sont paniqués parce qu'il y a un mur qui arrive, un tsunami chinois qui arrive sur nos productions. Et si nous ne faisons rien,
mais,
eh bien nous ne produirons plus d'automobiles, nous ne produirons plus d'acier.
Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, avant de vous interroger sur Donald Trump, sur tout ça, sur l'Europe, vous dites, et vous l'avez dit dès le début, c'est vraiment notre cœur, c'est aussi de croire à cette Europe. Mais est-ce que cette Europe, aujourd'hui, n'est pas notre boulet sur les questions industrielles, par exemple? Vous parlez de ce tsunami chinois. Ici même, à ce micro, le patron de la BPI disait il y a 3 jours, il faut que l'Europe érige à nouveau des barrières le temps de se réarmer. Et il disait, mais le problème, c'est que l'Europe va trop lentement.
L'Europe va trop lentement, mais c'est seulement à l'échelle européenne que nous pourrons imposer ces barrières. Vous savez, moi je suis rapporteur pour le Parlement européen sur les questions des investissements étrangers. Ce que font les Chinois aujourd'hui, et c'est une stratégie consciente pour ratiboiser nos productions et nous rendre totalement dépendants, c'est qu'ils investissent dans des productions en Europe qui sont en fait juste des usines d'assemblage pour pouvoir détruire par exemple Renault en France. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter
aujourd'hui dans cette menace-là, cette menace de disparition de notre industrie qui est déjà plus très flambante.
Mais vous savez, ça, c'est arrivé, par exemple, dans le secteur de production des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Eh bien, on a laissé nos producteurs se faire ratiboiser. Aujourd'hui, les 10 champions du monde sont tous chinois.
Et quand vous dites, vous dites, on a laissé. Oui, est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied?
Mais oui. Et c'est pour ça qu'il faut changer les politiques commerciales européennes. C'est pour ça que je me bats au Parlement. C'est pour ça que j'ai convaincu les sociaux-démocrates, la deuxième force du Parlement européen, d'avoir un agenda de souveraineté qui est centré sur la question de l'industrie, de souveraineté industrielle, pour protéger nos secteurs, protéger nos producteurs contre la menace chinoise, qui est vraiment une menace d'éradication de nos capacités de production. Et moi, ce que je vous dis, c'est très simple. En fait, il faut accepter de mettre des droits de douane, d'activer nos instruments de défense commerciale que nous avons élaborés. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelle.
Le fameux bazooka, qui était plutôt une réponse aussi à la menace de droits de douane très élevée de Donald Trump. Bon, depuis, il est revenu dessus, mais est-ce qu'il faut effectivement pas seulement dire « Ah, attention, on va l'activer », est-ce qu'il faut le faire ?
Il faut le faire.
Faut le faire avec les Chinois ?
Et ce qu'il faut faire, surtout, c'est de dire dans telle filière qui sont stratégiques pour nous, eh bien, nous n'acceptons plus les produits chinois,
oui,
nous les bloquons
le dit,
à la frontière. Eh bien, nous commençons aujourd'hui, par exemple, sur la question des voitures électriques, et l'Europe, certes, va trop lentement, mais la seule manière de protéger nos industries, c'est que l'échelle européenne fonctionne. La France seule ne pourra pas assumer un rapport de force ni avec la Chine, ni avec les États-Unis de Donald Trump. Donc, tous ceux qui vous expliquent qu'en gros, il faut sortir de l'Union européenne ou au moins diminuer le pouvoir européen, eh bien, en fait, jouent contre nos industries. Nous, au Parlement européen, nous poussons pour un agenda de souveraineté. Et moi, ce que je note, c'est que les pseudo-patriotes, ceux qui vous
expliquent... Finalement, la souveraineté, c'est plus du tout un gros mot, quoi.
Et non, mais la souveraineté, c'est le cœur de tout. C'est le cœur de la liberté. Moi, j'ai été élu en 2024 aux européennes sur un agenda de souveraineté en expliquant que tout, aujourd'hui, toutes nos politiques publiques doivent viser à une seule chose, nous rendre libres en matière de défense pour ne plus dépendre simplement des États-Unis d'Amérique et du bon vouloir du président des États-Unis. En matière industrielle, pour ne pas être dépendant de la Chine dans toutes les filières stratégiques. En matière d'énergie, pour ne plus dépendre de la Russie, pour ne plus dépendre des puissances du Golfe ou des États-Unis. Et donc, tout doit viser à la souveraineté désormais, parce que l'Europe, à cause de 40 années d'indolence en France et en Europe, eh bien, nous sommes devenus profondément dépendants. Vous savez que, par exemple, quand vous utilisez votre carte bleue, eh bien, vous dépendez des États-Unis. Et que si le président des Américains décide...
Ce qu'il a fait pour un juge.
Juge Guillou.
Voilà, qui se retrouve à devoir payer en espèces et à ne plus même pouvoir payer qu'une carte bleue.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut un système européen de paiement. C'est pour ça que moi, je salue le travail d'Aurore Laluc, la coprésidente de Place Publique, qui est à la tête de la Commission économique au Parlement européen, se bat pour l'euro digital, pour qu'on puisse payer en utilisant des moyens européens.
Raphaël
et c'est
Guzman.
Ça sur tous les sujets, le numérique.
Donc on doit reprendre le pouvoir de notre
reprendre
propre souveraineté.
Contrôle, et ça ne peut arriver qu'à l'échelle européenne.
Tout cela face, effectivement, à des États-Unis de plus en plus hiératiques. Ce week-end, ce drame à nouveau à Minneapolis. Est-ce que les États-Unis ont basculé?
Ils ont basculé et c'est vraiment, vraiment une leçon qu'on doit retenir. Vous avez vu à quelle rapidité une démocratie aussi enracinée que la démocratie américaine peut basculer. Vous avez aujourd'hui des citoyens américains qui sont assassinés par des agents fédéraux dans les rues de Minneapolis, un an seulement après l'accession au pouvoir de Donald Trump. Vous avez aujourd'hui des États-Unis d'Amérique qui menacent de guerre le Danemark leur meilleur allié sur la scène internationale pour récupérer le Groenland. Donc vous avez vu à quel point une société démocratique peut basculer. Et c'est une leçon qu'on doit tirer, y compris en France. Quand vous votez pour l'extrême droite, c'est ça que vous avez au pouvoir. Ce n'est pas...
Ce que vous dites, c'est que, attention, ce qui se passe là-bas, ce sont les complices, enfin les complices de Donald Trump ici, c'est le RN.
Mais oui, quand vous votez RN, si le RN l'emporte, et en 2027, il y a un fort risque que le RN l'emporte cette fois-ci, eh bien c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez en Hongrie, sous Monsieur Orban. Le népotisme, la violence, la destruction des institutions démocratiques, la destruction de l'audiovisuel public, c'est ce que vous avez aux États-Unis. Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais la Hongrie n'était pas une démocratie très enracinée. Ok, et aux États-Unis alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il faut avoir conscience que quand on choisit de porter l'extrême droite au pouvoir, ce qu'on a, c'est le spectacle de Minneapolis, ce sont les embardés de Trump à l'international.
Ça veut dire que pour vous, Donald Trump n'est plus un allié, vous l'avez d'ailleurs dit. Dans le même temps, lorsque l'on voit les drames que traverse l'Iran aujourd'hui, est-ce qu'il faut en même temps se dire malgré tout, bon, il faut quand même espérer que Donald Trump intervienne ou pas? Comment on fait?
Il faut déjà que l'Europe agisse. Aujourd'hui, on n'a que des tweets venant d'Europe. Vous savez, depuis 2 ans, et je suis l'architecte de cela, donc je sais. Depuis 2 ans, au Parlement européen, nous demandons que le corps des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire le pilier de la répression qui a fait des dizaines de milliers de morts au moment où on se parle en Iran, que le corps des gardiens de la Révolution qui soutient le terrorisme dans l'ensemble de la région, et y compris sur le sol européen, avec notamment l'attentat contre la synagogue de Bochum en 2022, eh bien que le corps des gardiens de la Révolution soit inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et ce n'est toujours pas fait. Au moment où on se parle, il y a encore des États, dont malheureusement le nôtre, la France, qui refusent cette inscription.
Pourquoi?
Sur la liste des organisations terroristes. Parce qu'ils veulent continuer à pouvoir parler avec ce régime. Mais la vérité, c'est que ce régime est devenu totalement infréquentable, qu'il est dangereux pour le peuple iranien d'abord, qu'il est dangereux ensuite pour l'ensemble de la région, et qu'il est dangereux pour nous, puisqu'il est essentiel dans l'effort de guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, qui est un effort de guerre contre l'Europe. Donc en fait, à un moment, il faut que l'Europe arrête de simplement être une commentatrice des événements mondiaux et agisse.
Et agisse sur le Groenland. Est-ce que vous faites confiance à Donald Trump qui semble en quelque sorte faire machine arrière?
Ce que cela montre, le fait que Donald Trump fasse machine arrière, c'est qu'en fait, tant que vous faites des courbettes, il avance, il vous marche dessus. Mais si vous assumez le rapport de force comme l'ont fait les dirigeants européens, et là je salue la position du président de la République française, Emmanuel Macron, eh bien il recule quand vous assumez le rapport de force. Il a reculé face aux Chinois, il a reculé là face aux Européens. Et c'est précisément parce que les Européens n'ont pas baissé les yeux, parce qu'il y a eu une réponse collective européenne, parce qu'il y a eu la menace de l'activation de l'instrument anti-coercition qui est notre bazooka commercial et qui aurait fait extrêmement mal à l'économie américaine, c'est pour cela qu'il a reculé.
Et mais donc on peut y arriver.
Au premier signe de faiblesse, il avancera. Mais par contre, le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que, en fait, en Europe, on passe son temps à déplorer notre propre faiblesse. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons être forts, nous sommes le premier marché du monde. Les Américains dépendent de notre marché, y compris les grandes plateformes américaines. Et donc, si nous avons la volonté d'affirmer notre puissance, eh bien, nous serons puissants et nous pourrons faire reculer les prédateurs. Et les prédateurs, ce sont les États-Unis de Trump, c'est la Chine de Xi Jinping et c'est la Russie de Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance.
Raphaël Glucksmann, ce matin, j'ai reçu sur RMC la sœur de Samuel Paty. C'est aujourd'hui l'ouverture du procès en appel. Et ça a donné lieu à un certain nombre de témoignages d'auditeurs, professeurs. Et notamment, je voudrais que vous écoutiez celui-ci. Il ne souhaite pas qu'on dise son nom. Il est professeur dans le Nord depuis 22 ans, dans des quartiers prioritaires. Écoutez ce qu'il dit.
Pour mon cas personnel, ce sont des épiphénomènes qui, cumulés, montrent que effectivement, il y a une certaine dérive. De mon point de vue personnel, j'ai eu un moment de ma carrière où j'enseignais en maternelle. Ouais. Et quand j'ai lu et monté un projet sur l'histoire des trois petits cochons, j'ai eu un tiers de la classe d'enfants qui pleurait. Et donc, on m'a fortement conseillé, du point de vue des parents, de...
Il pleurait à cause du loup ou il pleurait à cause des cochons?
À cause du cochon.
Parce qu'on ne peut pas parler des cochons.
Tout à fait. Et puis, un autre épiphénomène que là je ne comprends toujours pas, c'est que j'ai souvent, donc je travaille souvent, quasiment tout le temps en REP+, c'est-à-dire en région d'éducation prioritaire.
Oui.
Et très souvent, à chaque année, en photo de classe, j'ai au moins élèves où les parents refusent que l'enfant apparaisse sur la photo de classe pour des raisons religieuses.
Qu'est-ce que vous dit la hiérarchie, par exemple, quand vous faites, quand vous parlez des trois petits cochons, quand
je n'évoque pas,
vous ne parlez pas.
L'armée, la grande muette, l'éducation nationale, c'est pas mal non plus.
Qu'est-ce qu'on dit de ce témoignage? Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites, effectivement, 5 ans après la mort de Samuel Paty?
Qu'il faut se montrer inflexible. Inflexible. L'école doit être protégée. Nos enseignantes, nos enseignants doivent être protégés et appuyés. Je veux dire, on va continuer à enseigner les trois petits cochons, la Shoah. On va continuer à enseigner la science. On ne reculera pas. Nous sommes.
Ce même professeur disait aussi qu'il ne pouvait plus parler de la préhistoire et du darwinisme.
Eh bien, nous allons faire en sorte de réarmer nos professeurs, de les soutenir, de faire de l'école à nouveau une avant-garde du projet républicain. Mais vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait peser sur l'école l'ensemble des crises de la société. Et quand on parle de l'école de la Troisième République et des hussards noirs, mais c'était un moment où il y avait aussi des syndicats de masse, des partis politiques de masse, un service militaire de 3 ans. Et donc, il y avait toute une société qui accompagnait le projet républicain. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'école. Il n'y a plus que l'école, TikTok, et des émissions de divertissement. Eh bien, moi, je vous le dis, on va reprendre le métier à tisser de la France et de la République. Et donc, par exemple, il faut un service civique universel et obligatoire.
Universel et obligatoire, pas volontaire.
Non,
pas...
pour tous les jeunes de France, pour les arracher à leur quartier, pour qu'ils puissent se mixer, pour qu'ils puissent se rencontrer.
L'interdiction des réseaux sociaux, au moins de 15 ans, vous y êtes favorable?
Oui, mais moi, je vais même plus loin. Je pense qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui sont une menace de déstabilisation pour nos démocraties. J'ai présidé la commission d'enquête du Parlement européen sur les ingérences étrangères et je peux vous dire que par exemple TikTok...
Faut interdire TikTok.
Quand vous prenez TikTok et que vous analysez leur rôle, par exemple, dans l'élection présidentielle en Roumanie, ils ont faussé cette élection. Ils ont fait monter un candidat de 3 à 25% simplement en le rendant viral. Nous n'avons aucun contrôle sur ces algorithmes. Ils sont aujourd'hui une menace pour la démocratie. Donc oui, il faut menacer de bannir TikTok et ensuite prendre le contrôle, pouvoir surveiller ces algorithmes. Aujourd'hui, c'est à la fois une menace pour la santé mentale de nos enfants. C'est une sorte de fentanyl, une drogue qui est en train de vraiment pourrir l'esprit de nos mômes, et c'est une menace pour nos démocraties.
Et je précise d'ailleurs, Raphaël Glucksmann, que c'est assez cohérent. Vous avez vous-même fermé votre compte TikTok. Député européen, place publique, merci d'avoir répondu à
merci
mes questions
à
ce matin. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Raphaël Glucksmann, candidat place publique, était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Raphaël Glucksmann.
Rebonjour, quel plaisir d'être là.
Alors, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, oui, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui, oui.
Bonjour Raphaël. Oui, oui, j'ai trouvé votre interview formidable sur Apolline. Oui. Non, franchement, ce serait un bonheur qu'il soit élu en 2027. Non seulement nous aurions un président de gauche, mais en plus, contrairement au dernier président de gauche, vous le voyez par vous-même, Apolline, hein, on aurait un Raphaël qui a la classe, une classe naturelle. En plus, beau gosse, hein, ce qui ne cache rien. Hein, oui. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur. Hein, vous l'avez compris.
Ah oui.
Hein,
c'est une proposition, hein, peut-être.
Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Hein. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, hein, je pense même qu'il serait opportun, hein, le mot est juste, opportun, d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Hein. Il n'y en a pas 36,
mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche.
Oui.
Hein. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon. Oh. Hein, voilà, vous pensez à quelqu'un?
Oui, non, pas
oui,
du tout.
Oui, mon petit. Voilà. Hein. Mais il n'y a pas que lui, vous savez, Mitterrand, regardez.
Ah oui,
il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Hein, bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter,
Ah oui.
Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer.
Merci beaucoup, Madame Royal. Sinon, la gauche unie a annoncé donc que la primaire pour désigner son candidat à la présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain.
Oui, oui, oui. Enfin, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est pas de trouver des candidats, hein. C'est plutôt de trouver des électeurs.
Oui, 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 oui. Merci, Madame Royal. François Ruffin est également avec nous. Il voulait nous dire un mot.
Je voulais dire stop. Stop, ça suffit, Raphaël. Si chacun se présente de son côté, comment nous allons faire pour être unis? Oui, Raphaël a fait 14% aux dernières européennes, mais avec cette multiplication de candidats à la présidentielle, tu vas faire 5 fois moins, Raphaël. Alors, je le dis, si tu fais 3%, si on additionne, en revanche, nos voix. Mais 1%. Les 1% des écologistes, oui. Plus les 12 000 voix de Clémentine Autain, les 853 voix du Parti Animaliste, plus les voix de la belle famille d'Alexis Corbière. On peut viser haut la main les 5,37%. Alors je dis stop, ça suffit. Rejoins-nous, Raphaël.
Merci beaucoup, François Ruffin. Raphaël Glucksmann est donc toujours avec nous. Et monsieur Glucksmann, au Parlement européen, vous aviez voté pour que l'accord de libre-échange avec le Mercosur soit suspendu. Pourquoi ?
Ah, chère Apolline de Malherbe, les pays du Mercosur, il faut le savoir, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires qui pèsent sur nos agriculteurs européens. Moi, je les défends dans notre belle maison qu'est le Parlement européen. Et ça, c'est pas normal. Apo pour canard. Non, Apolline de Malherbe. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Argentine, le Brésil veulent exporter chez nous des tonnes de steaks qui ne sont même pas en soja? Ni en tofu, ni en petit épeautre labellisé Moulin de Paris. Alors, je ne vous parle même pas des millions de bouteilles de vin non bio qui vont envahir les rayons de nos épiceries équitables. Moi, moi, je soutiens les agriculteurs. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Je suis né avec ça, c'est déjà dur.
Là, il se demande s'il doit rester là, Raphaël Glucksmann.
Il y a tout RMC qui m'a dit, mais non, t'inquiète, c'est facile, c'est safe. Eh ben, bravo.
Moi, je soutiens. Rien ne m'arrêtera, Pauline Malherbe. Ni personne. Il n'y a pas de censure. Les agriculteurs français font un métier difficile, dur. Je le vois chaque jour. Mon voisin fait pousser du basilic dans une jardinière sous le balcon de notre immeuble du 9e. C'est compliqué. Je le vois en bas de chez nous. Il y a un peu de... 10e, pardon.
C'est encore plus bobo. Il faut cibler, là.
Oui, mais tu ne sais pas que tu vas déménager.
Ah, pardon.
En bas de chez nous, dans le 10e, 9e, oui, parce que je multiplie les propriétés immobilières. Ah, oui. Il y a un petit potager. Putain, je vais pas la finir, ma chronique. Il y a un petit potager.
Il n'emploie pas ce mot.
Oui, pardon.
J'ai des enfants. Non, punaise, de bien les élever,
pardon,
moi,
punaise. Les punaise. Oui. Non, mais quand je suis excédé, des fois, j'ai à laisser, des fois. Bon. En bas de chez nous.
Les citoyens.
Oui, entre la rue La Fayette et le boulevard Magenta, eh bien, que d'efforts pour arriver à faire pousser trois tomates cerises et filer cette chronique.
C'est un peu poussif, là.
Choucroute.
Je ne veux pas juger le travail des journalistes.
Vous allez y arriver. Merci, monsieur Glucksmann. Ce matin,
il y avait encore un paragraphe. Je vois que je suis censuré.
Qu'on accueille Philippe de Villiers.
Que de folie dans ce studio.
Le puits du fou de gauche, alors.
Non, mais on ne touche pas au puits du fou. Monsieur Ruffin doit se calmer. L'histoire de France est trop importante pour la confier à monsieur Ruffin et à ses régicides en Sarouel bioéquitable. Non, non, ça va être quoi les attractions, monsieur Ruffin, dans son puits du foot gauche. Hein, ça va être les visiteurs
pratiqueront le tir au patron, c'est ça, avant d'aller faire un tour sur les montagnes soviétiques. Et puis, les enfants joueront à la pêche avant d'aller se bousculer dans les Lada tamponneuses et nos spectacles. Oui. On va oublier les grands classiques pour remplacer ça par le bourgeois pas du tout gentilhomme bâtard, c'est ça, et avec des tableaux d'aventure comme Trotsky et Hutch.
Voilà.
Et tout ce beau monde mangera chez qui? Chez Marx Donald, hein. Je vois ça. Non, mais quelle vision d'horreur. Non, prions Saint Vincent de Paul Auré et la Vierge Marine pour nous épargner de ce fléau. Merci à mon binôme.
Et merci à Raphaël Luxman d'avoir joué le jeu et d'être resté avec nous face à Canteloup tous les jours, 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
On a une question simple. Mélenchon ou Glucksmann, qui peut faire gagner la gauche en 2027, puisque ni l'un ni l'autre n'iront à la primaire? Et puis Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui veut stopper l'immigration pendant 3 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Venez en discuter avec nous au 32-16.